Merci. Je voudrais juste faire un tout petit point très rapide. Donc ma présentation va être assez rapide pour essayer de dégager le maximum de temps pour la table ronde, parce que je pense que c'est plus important pour vous d'interagir avec les gens qui sont là et de pouvoir poser des questions que forcément de m'écouter parler de quelque chose que vous pourrez découvrir à peu près sur le web. Ou un point que j'aimerais faire et que j'ai remarqué, ça donne vraiment l'impression d'une bande de copains, les gens qui étaient là au deux rangs, parce qu'on se fait référence, etc. C'est que la communauté française est toute petite. La communauté française de gens qui se sont impliqués. Et je trouve ça extrêmement dommage. Et vous, en tant qu'individuel, vous pouvez tous vous impliquer à un endroit ou à un autre, que ce soit dans des activités d'éducation, que ce soit dans Open Web, que ce soit dans des relectures de normes, en fonction de vos compétences, en fonction de vos techniques, vous pouvez tous vous impliquer dans le processus et vous pouvez tous faire partie de la bande de copains. Il n'y a pas une sorte de... C'est pas qu'un univers protégé, et c'est pas, je veux dire, il n'y a pas de sélection à l'entrée. C'est ouvert à tous. Et je voudrais remercier les organisateurs parce qu'ils ont fait un travail formidable pour pouvoir faire cette conférence. Un peu de contexte, puisque j'ai parlé beaucoup de contexte durant cette présentation. Je suis Carl Dubos, WFC Conformance Manager. C'est mon rôle, mon job, c'est le statut que j'ai dans cette conférence. Je ne suis pas Carl Dubos Lagrange, okay, parce que beaucoup de gens connaissent mon weblog, et je peux être Carl Dubos Lagrange quand je suis à l'extérieur, mais là je ne parle pas avec ma casquette de carnotier, poète, ce que vous voulez, etc., photographe farfelu, nu ou pas. Je suis le conference manager du W3C. on passe à la question suivante. C'était qu'est-ce que ça veut dire conference manager en français? Je sais pas. Je sais pas en anglais non plus. Donc,
Carl.
Oui.
En français, on appelle ça d'habitude un responsable de la conformité ou de la conformant. Enfin bon, c'est des néologismes, mais pour faire du propre, quoi.
C'est en gros, je suis chargé d'être, pour reprendre des mots qui plairaient à Daniel, je suis chargé d'être le chieur dans les groupes de travail. J'emmerde tout le monde. Donc, je vais faire un tout petit rappel avant de partir sur la notion de relation et d'enrichissement de le titre de ce que je vais présenter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est le web ? Alors, beaucoup de gens, si on pose la question, même ici ou un peu partout, le web, pour les gens qui ont une petite connaissance technique, beaucoup de gens disent HTML. C'est une partie du web. On en a beaucoup parlé pendant ces deux jours-là. On a surtout parlé de HTML, c'est-à-dire du front-end, des langages de markup, de description de page, de CSS, etc. On a très peu parlé de ce qui se passait derrière. Et le web, c'est pas seulement ça. Alors, si on pose un peu plus la question à d'autres personnes, les gens qui sont un peu plus techniciens et qui développent des sites et des systèmes de management, de content management, ils vont rajouter HTTP parce que c'est quelque chose qu'ils ont à travailler dans le développement. Par exemple, pour pouvoir servir un contenu avec un MIME type approprié. Daniel va être encore content. Mais c'est pas que ça. C'est HTML, HTTP et un identifiant, URI. C'est très important, cette notion-là. C'est peut-être même la création de Team, c'est pas tant HTML et HTTP comme l'a dit Daniel, puisque ça existait déjà, les langages de markup. C'est beaucoup plus la notion du URI. De faire que sur un même schéma, on puisse accéder à nombreux services différents sur le web et que ça se soit normalisé, formalisé. Donc le web, c'est un écosystème. C'est l'ensemble de ces trois technologies ensemble. C'est très important de comprendre ça. Depuis, il y a eu d'autres développements que HTTP, HTML, etc. Il y a plein de langages. Certains développés au W3C, certains développés à l'extérieur du W3C. Ça aussi, c'est un point important du web, c'est que le web n'appartient pas au W3C. Le web appartient à tous. Et chacun participe à son développement. Donc, HTML, c'est un format, ça traite des documents. Donc, la notion essentielle qu'on doit retenir par rapport à HTML, c'est que c'est un document. HTTP, ça sert à transporter. C'est du protocole. URI, c'est l'identifiant. Donc, document, identifiant, protocole. On transporte. Et là, je finis mon cours sur ce qu'est l'architecture du web. C'est très simplifié. Ça ferait hérisser sûrement les cheveux de beaucoup de gens. Je vais parler un peu d'économie, de TVA. Parce que c'est ça qui va nous intéresser quand on parle d'enrichir nos relations. Dans une relation sur le web, quand on utilise le web, il y a un homme, une personne, un utilisateur, et ça c'est très important, et il y a une machine à l'autre bout. Et ça a des coûts induits d'utilisation quand on veut regarder un texte par exemple. Donc un texte c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui est à peu près, je veux dire, qui est à peu près compris maintenant, quoique, ça existe depuis très longtemps. C'est développé, l'écriture a été développée pour traiter des problèmes économiques. En gros, on pense que l'écriture a été inventée pour pouvoir faire des comptes et donc prendre en compte le commerce. Puis ensuite, les religieux s'y sont mêlés et puis ensuite le développement, etc. Donc un texte est simple. Un texte n'a pas forcément beaucoup de structure. Par lui-même, les vieux textes anciens, les deux photos que je vous ai montrées, la structure est pas évidente. La structure, vous l'obtenez en lisant le texte. Quand vous êtes capable de lire, l'humain va être capable d'analyser le texte et de dire « Ah oui, ça, ça fait du sens. Ça, c'est un bloc d'idées. Ça, c'est quelque chose. » Et ça veut dire que la TVA, c'est-à-dire la taxe à valeur ajoutée, elle est du côté de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a un énorme effort pour pouvoir comprendre le texte. C'est de votre côté. On peut faire du texte structuré. C'est une étape supplémentaire. Ça va nous permettre de comprendre un peu mieux le texte. Donc, on déplace le niveau de compréhension vers la présentation. Là, par exemple, on va organiser le texte en paragraphes et ça va permettre à l'humain de faire un petit peu moins d'efforts pour pouvoir comprendre ce texte. On a enrichi le texte. On a créé de la sémantique. Il y en a dans HTML. Il y en avait avant, bien sûr, HTML. Il y en a en XML. Il y en a dans les wikis, dans Office, que ce soit, sans citer, que ce soit OpenOffice ou Word. Derrière, les technologies qui permettent de gérer ces textes-là sont des technologies, des langages de markup qui permettent de donner un peu plus de sémantique à votre document. Tel que je l'ai montré au début, la première photo, vous avez vu un texte. Et j'ai bien dit la présentation dans le sens où, originellement, la façon de comprendre un texte, c'est quelque chose pour vous qui est la présentation pour l'humain. Pour l'humain qui a des yeux. Pour l'humain qui est dans une catégorie qui arrive à comprendre un texte. On a vu plusieurs fois pour un aveugle ou dans un contexte différent pour quelqu'un qui a un problème d'audition, la vision, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Donc, il y a un besoin de compréhension, il y a un besoin de structure. Donc, on commence à enrichir le texte en faisant une structure plus ou moins explicite. Donc, on a déplacé la TVA. Là où l'homme avait à faire beaucoup d'efforts pour pouvoir comprendre le texte, on le déplace vers le langage de markup. Le markup, la machine, commence à prendre en compte les besoins de l'humain. Et la machine va rendre, par exemple, pour quelqu'un qui a des capacités visuelles, pour pouvoir comprendre un texte, va rendre, par exemple, un markup avec un P à un paragraphe, va le rendre comme un bloc séparé de l'autre. C'est pour ça qu'on va comprendre l'idée. Texte structuré enrichi. Donc, c'est moi qui ai inventé ce terme-là. Là. Prenons un texte. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Bachelard. Le titre d'un livre, La poétique de la rêverie de Gaston Bachelard. Si on le structure tel qu'on l'a vu avant, on a des éléments HTML classiques. Alors, c'est peut-être pas très lisible, je sais pas. Si, ça va. J'ai mis un site, j'ai mis des spans autour, etc. J'ai séparé les éléments, j'ai mis un identifiant sur Gaston Bachelard. Donc ça, c'est une sémantique simple telle qu'on la connaît sur HTML. C'est expliciter la sémantique d'un texte. Expliciter la structure de l'information qui est dans un texte. Et puis, la structure enrichie. Alors, on commence à avoir, en ce moment, des choses comme ça. Ça commence à arriver. Alors, ce que vous voyez là, vous allez peut-être pas forcément reconnaître, parce que c'est un langage qui est en développement en ce moment au sein du W3C, qui s'appelle RDF-E, qui est une façon d'écrire une syntaxe enrichie dans du HTML. C'est ce que font aussi les microformats. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent, depuis hier, qui me posent des questions sur les microformats. Je ne vais pas forcément y répondre maintenant, ni RDFA, mais j'aurai plaisir à y répondre si vous avez des questions spécifiques. En gros, ces deux choses-là font la même chose. Elles le font différemment, avec pas les mêmes contraintes techniques, avec pas les mêmes, pas la même vision, mais elles font exactement la même chose, c'est-à-dire enrichir un texte à un langage de markup qui est classique, qui est HTML. On a redéplacé encore un peu plus la TVA en mettant un peu plus d'informations vers la machine. Attention, est-ce qu'on va pas vers une obésité sémantique? Est-ce qu'on va pas vers trop d'enrichissement dans le texte? Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut réfléchir maintenant, parce que c'est un problème qui va ressembler beaucoup à celui des tableaux et des CSS. C'est-à-dire, dans la présentation, on a commencé à utiliser on a utilisé des éléments de style dans les documents, etc., des tableaux, puis après, quand on s'est retrouvé à avoir des CSS implémentés, on se retrouve avec des documents qui sont très difficiles à gérer, à modifier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait passer une page HTML statique qui était avec des tableaux, des fontes et des i vers CSS. C'est un gros travail au départ parce qu'il faut complètement restructurer la page. Donc, attention à l'obésité sémantique. Extraire le sens. Donc, quel est l'avantage d'avoir une sémantique enrichie dans un document? En fait, c'est pas extraire du sens, c'est extraire des relations. Parce que le sens, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel. La façon dont moi je dis que ça c'est organisé, c'est ma façon propre. J'ai pas forcément la même notion, et ça a été dit ce matin, quand j'ai un chat dans la tête, quelqu'un a pas forcément le même chat dans la tête. Donc c'est très important. C'est pas forcément le sens que l'on veut extraire du texte, c'est les relations de ce texte, de cette structure de métadonnées, à quelque chose qui signifie quelque chose, qui signifie autre chose, qui est un modèle de sens. Ce que j'ai mis tout à l'heure par rapport à Bachelin, c'est dire que ce que j'avais dans mon texte, c'est un livre, il a un numéro ISBN particulier, il a un auteur, le nom de cet auteur, c'est Gaston Bachelin, il a un titre, c'est la poétique de la rêverie. Donc ça, c'est extraire les relations entre les différentes parties du texte, et c'est ça qui donne du sens. Plus autre chose. Oui. Donc la richesse, elle n'est pas tant donnée par le fait de dire ça a cette signification-là, mais plus de dire ces mots-là, dans ce contexte-là, la façon dont moi j'ai défini ces mots-là, ils ont ce sens-là. Pourquoi ? Pourquoi c'est important d'avoir du sens et de la sémantique ? Et pour répondre à Daniel qui a lancé une petite pique tout à l'heure sur le web sémantique en disant que ça concerne que très peu de gens. C'est pas vrai. Ça concerne tout le monde ici, tout le monde dehors. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors, la grosse erreur de promotion, je pense, de l'enrichissement des documents web, ça a été de dire que c'est pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche font de l'indexation plein texte, et la plupart du temps, ils n'ont pas besoin de savoir les relations de sens, etc. Quoique, c'est pas tout à fait vrai, non, parce que c'est très difficile de trouver de l'information sur le web quand on n'est pas spécialiste. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est vous cherchez Python sur le web, sur un moteur de recherche, sur Google. Le mot Python, si vous le demandez à quelqu'un qui est en classe primaire, c'est sûrement qu'il veut chercher un serpent. Eh ben, le serpent, la notion de serpent dans Google, elle arrive à la 20e page. Avant, c'est Python, le langage de programmation, et après, c'est les Monty Python. C'est un problème. C'est un véritable problème. C'est-à-dire que le web, tel qu'il est, les moteurs de recherche, sont utilisables par qui ? Par vous, les geeks. Et c'est pour ça que vous ne le voyez pas. C'est pour ça que vous avez une interaction qui est riche pour vous, mais pas riche pour la plupart des utilisateurs. C'est une question de contexte. Donc, moteur de recherche, peut-être, mais c'est pas le meilleur candidat. Moteur spécialisé. Ça, c'est très important. Les interfaces utilisateurs, les applications web, ce dont on n'a pratiquement pas parlé pendant ces deux jours, c'est que nos interactions avec le web, elles se contentent pas de lire et éditer du web. On interagit avec le web pour avoir des services, pour commander des billets, pour acheter quelque chose. Et ça, c'est très important. Donc, l'utilisateur est au centre. Les métadonnées sont des données qui ont été rendues explicites. Les métadonnées, c'est pas quelque chose qui est ailleurs. C'est pas quelque chose de différent. Et là, la communauté des microformats a un slogan qui est intéressant, c'est que les données sont dans le texte. Elles sont là. Donc, données explicites, métadonnées explicites. Mais le problème, c'est que certains schémas, et comme les microformats par exemple, ont pas de modèle explicite. Alors, je vais être très prudent sur ce que je dis. Elles ont un modèle explicite qui est dans une spec. Elles ont pas de modèle explicite au niveau informatique, au niveau du langage. Si on me donne un microformat, il faut que je prenne la spec et que je l'implémente pour pouvoir comprendre le microformat. Ce qui est un problème. Parce que quand on veut créer des services qui ont un minimum d'autonomie, qui demandent moins d'interaction au niveau du... moins de développement pour l'interaction, il est nécessaire d'avoir une description explicite du modèle. Je vais prendre un exemple, les tags. Tu vas voir pourquoi, Daniel. C'est une photo que j'ai trouvée sur Flickr. L'auteur est là-bas, il l'a mis en partage, donc merci à lui. Il y a un arbre et une chaise. Puis il a tagué sa photo. C'est intéressant, il a mis Jumièges, l'abbaye Seine-Maritime, Val, etc. Jumièges. Il l'a mis deux fois. Une fois avec un accent, une fois sans accent. Pourquoi ? Parce qu'il a considéré que en anglais, on mettait pas d'accent, et en français, on mettait un accent. Un mot n'est pas du sens. Alors ça peut vous paraître bizarre, un mot c'est un véhicule dans le langage, c'est quelque chose qui va véhiculer du sens en fonction d'un contexte particulier. S'il n'est pas rattaché à un modèle derrière, à un modèle conceptuel, il n'a aucun sens, il n'a du sens que pour vous ou que dans une communauté partagée. Il a mis tree and arbre, et arbre, pardon. Le caractère japonais, par exemple, pour arbre, c'est celui-ci. Pourquoi seulement arbre et tree? Pourquoi pas en allemand? Pourquoi pas en slovaque, espagnol, etc.? Un mot n'est pas un concept. Un mot est le véhicule d'un concept dans un contexte donné. Là, on a le cas pour un caractère japonais. Si quelqu'un va rechercher ça, il va pas le trouver. Il va pas trouver cette photo-là. Normandie. Il est seulement en anglais. En japonais, il est pas écrit. Normandie. Et Normandie. En français. Même chose, même problème. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée ça. En haut à gauche, j'ai recherché Normandie en japonais. Au milieu, c'est en anglais, et à droite, c'est en français. On n'a pas les mêmes images. Donc, vous me direz, dans le cas de Flickr, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est pas tellement un problème, mais la disparité, c'est un problème. Parce que quand on a un contexte explicite, quand on peut avoir toujours les mêmes résultats, on établit de la confiance. Quand vous allez à votre guichet de banque, vous êtes content qu'on vous distribue pas une somme aléatoire d'argent quand vous avez pitonné un bouton. J'ai dit pitonner, hein. Oui, pardon. Appuyer. Désolé. Je suis venu de Shimokitazawa, donc je vis au Japon. J'habite à Shimokitazawa. Je suis venu jusqu'à la Sosei, qui est en Normandie. Il m'a fallu regarder les horaires de train sur un site web japonais. Ensuite, il m'a fallu regarder réserver mon billet d'avion, regarder les horaires de métro à Paris, regarder les horaires de train pour aller en Normandie, etc. Tout cela avec des interfaces différentes, avec des données manquantes ou pas, avec des problèmes d'implémentation dans les navigateurs, etc. Pas de modèle explicite commun. C'est un problème. Je pourrais très bien imaginer que j'ai une application où je clique, je veux aller de là à là, là, va utiliser ces services-là sur le web. Et ça, c'est important. C'est une véritable aventure de prendre le train. Moi, j'adore le hasard, j'adore les rencontres. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, le hasard et les rencontres. Oui, mais j'ai beaucoup moins quand il me faut prendre un train et que je dois stresser parce que je ne sais pas à quelle heure est le train ou que je ne suis pas sûr de l'horaire ou que je dois passer 2 heures à chercher un hôtel ou un train sur le web. Ça, j'aime pas du tout. Donc, et c'est quoi le web sémantique? Parce que je vous en ai toujours pas parlé. Ben, je vais pas beaucoup vous en parler parce que c'est surtout pas ce que vous avez l'habitude d'entendre de la part des détracteurs, c'est-à-dire du web sémantique. C'est pas un utilisateur qui modèle la connaissance. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce que je vous ai donné l'exemple là d'obésité sémantique d'enrichir le document. C'est sympa, c'est intéressant. Mais il est hors de question que l'utilisateur fasse ça. Vous n'allez pas vous transformer en bibliothécaire, ontologiste, etc. C'est hors de question, c'est irréaliste. C'est surtout pas le fait d'écrire une encyclopédie. Ça n'a rien à voir avec ça. Sauf si vous en avez besoin. C'est-à-dire si vous avez envie d'écrire Wikipédia, ça c'est votre marotte, vous pouvez le faire. Ou si vous avez envie de déclarer vos relations de façon explicite parce que vous en avez besoin. Parce que c'est important dans votre corps de métier. Parce que c'est important, par exemple, dans votre entreprise, que vous ayez des données riches dans votre page web. Oui, alors là, vous allez le faire. Seulement si vous en avez besoin. Restez pragmatique. Ne faites jamais rien pour le bénéfice ou la beauté de l'art. Faites-le parce que vous en avez besoin. C'est la même chose pour les normes web. Il faut enrichir par l'interaction. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les tags sur Flickr, c'est sympa comme système parce que c'est rapide, etc. On peut rentrer des tags, etc. On a l'impression de pouvoir catégoriser son contenu. Mais c'est pauvre en termes de modélisation de son contenu. On peut très bien imaginer que Flickr propose une interface légèrement plus riche, légèrement plus intéressante au niveau du back-end et qui vous permette d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. Par exemple, la dernière interface qu'ils ont fait sur Flickr, j'ai donné un exemple très rapide comment l'interface peut améliorer les choses. C'est une interface de carte qui permet de géolocaliser ces données. Ben ça, c'est un gros progrès. Plutôt que d'entrer latitude, longitude à la main, que tout le monde s'en fout, vous allez spécifier sur une carte le point où a été prise la photo. Et ça va enrichir les données. L'interface enrichit les interactions. Le web sémantique est là pour ça. C'est pour vous aider à faire ceci. En back-end, pas l'utilisateur. Donc, le web sémantique ou la sémantique en général, ça vous permet de lire, ça vous permet d'écrire, ça vous permet de comprendre, ça vous permet de ne pas comprendre quand vous n'en avez pas envie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'aller voir dans le code, vous n'êtes pas obligé de savoir les choses. Parfois, vous voulez justement ne pas comprendre, vous voulez que quelque chose prenne en charge pour vous. Donc, du concret. Et j'ai bientôt fini. Je vais prendre 2 exemples très très rapides, mais il y en a beaucoup d'autres. Et si ça vous intéresse, je donnerai plus d'exemples dans la présentation qui sera en ligne. XMP. XMP. Est-ce que des gens connaissent XMP? 2-3 personnes. Ok. Combien de gens utilisent les produits Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. Bon. Bah, tous ces gens-là, vous faites du RDF sans le savoir. Tous les documents Adobe. Tous les documents Adobe ont du RDF à l'intérieur qui s'appelle XMP. C'est une sous-partie de RDF. Donc tous les documents que vous échangez entre vous, etc., ont déjà ça, les métadonnées. Par exemple, quand vous mettez des métadonnées avec Photoshop dans une photo, et si vous exportez cette photo dans Flickr, Flickr va lire automatiquement les données RDF qui sont contenues dans le fichier. Souvent, on parle de killer application du web. Il n'y en a pas de killer application du web pour RDF. Au contraire, j'en veux pas. Je veux pas qu'il y ait quelque chose qui dise « c'est ça qui est la démonstration de RDF ». Ça doit être silencieux. Voilà. Alors, une killer app, c'est quelque chose qui démontre le succès d'une technologie. C'est quelque chose qui est vraiment significatif que « oh, la technologie a réussi ». Wikipédia est un autre exemple. Ils ont deux initiatives. Ils ont une partie un wiki sémantique. Ils sont en train de travailler sur la façon de mieux organiser leurs données, de façon de les enrichir, d'enrichir les relations, sans avoir à gêner l'utilisateur pour le faire. Plus autre chose, il y a une société qui a travaillé avec Wikipédia et qui a exporté toute la base de données encyclopédique de Wikipédia. Alors, je vais citer un mot pas correct, en triplé. Donc, en système de relations tel que je l'ai montré tout à l'heure, donc adapté au web sémantique. Donc, le web sémantique, c'est une femme avec un train, parce que moi, j'aime les rencontres, j'aime le hasard, et surtout, pas de soucis. C'est-à-dire que je veux prendre mon train sans avoir à y réfléchir. Je dis ça parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire... Le web sémantique, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas, surtout pas besoin de penser. Alors maintenant, quand vous êtes développeur, il y a plein de technologies qui sont en place pour vous aider à développer ces services-là et pour vous aider à les mettre en place. Donc, le web sémantique, c'est un web de données. C'est un web qui vous permet d'enrichir les relations et l'interface utilisateur, qui vous permet d'enrichir l'expérience de l'utilisateur sur le web. Et je vais m'arrêter là. Je vais prendre des questions si on a le temps, sinon à la table ronde.
On va prendre
et une chose, il y a beaucoup d'implémentations de librairies pour ceux qui sont développeurs dans la salle. Il y a beaucoup de librairies qui sont déjà implémentées pour RDF, pour manipuler du RDF.
Merci, merci, merci.
Non, c'est des vraies questions, je te rassure. C'est des vrais commentaires. Le premier, ce que tu as dit sur les micro-formats qui n'ont pas nécessairement de définition informatique, c'est faux. Il y a l'attribut profile qui est obligatoire dans HTML4 et qui rend la déclaration informatique du micro-format impérative. Donc si les micro-formats ne le réalisent pas, c'est leur problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes à la spec. Deuxième commentaire, je m'étonne beaucoup que tu aies vu que sur Flickr, les mots soient dans une langue, dans deux langues, mais que toi-même, dans ton exemple sur Bachelard, tu n'as pas, en fait, tu ne cites pas le livre, tu cites une édition du livre. Ton URI, c'est un ISBN, c'est une des N éditions de Bachelard. Et on n'a pas de moyen aujourd'hui de citer Bachelard, et de citer le livre de Bachelard. Les URL n'existent pas, sont pas prêts d'être là, et le web sémantique ne sera pas, excuse-moi, sans ça.
Donc, ça va être un peu technique, mais donc l'URL n'est pas forcément différenciable. C'est-à-dire que le modèle du web sémantique, tel que j'ai défini l'URL, ISBN, etc. C'est pas. Alors quand on appelle différenciable, c'est-à-dire que quand on va mettre une référence, j'ai bien dit au départ, c'est un identifiant. C'est pas un document. C'est-à-dire que c'est un identifiant pour identifier quelque chose. Ça n'a pas à voir avec quelque chose qu'on va chercher sur le web, mais c'est avec quelque chose qui permet d'identifier vraiment la ressource. Ce qui veut dire que c'est un commentaire tout à fait juste sur le bouquin de Bachelard. En revanche, le modèle RDF est fait pour être non consistant. T'as pas besoin de toutes les données. Tu peux avoir des trous dans tes données. À partir du moment où à un point de tes données, tu vas avoir un lien, tout le système va pouvoir se compléter, tu vas pouvoir parcourir le graphe. J'aurais dû mettre un exemple justement qui est pile poil dans ton exemple que j'avais dans un autre slide, qui est quelqu'un qui a une description d'un livre en slovaque ou quelque chose comme ça, puis il y a une description d'un livre en anglais, et puis à un moment, ils ont un point de contact pour une raison X, et les deux identifiants matchent, et hop, tu enrichis tout de suite l'arbre.
Question ici.
En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plus une demande de clarification. Daniel, un peu plus tôt, et toi encore au début, vous avez parlé du RI, tu as dit à quel point l'URI était vraiment très importante. Je suis pas sûr que tout le monde ici sache ce qu'est une URI, et même pour tout le monde, en quoi une URI est plus qu'une URL. Si tu peux l'expliquer rapidement.
Donc, l'URI est un identifiant, donc quand vous, dans votre navigateur, vous avez http://, le nom de domaine plus un chemin et votre fichier. C'est un peu complexe. On a l'habitude de penser que ça va chercher un fichier. En fait, ça identifie, en termes d'architecture web, en théorie du web, ça identifie une ressource sur le web. C'est vraiment un identifiant pour dire, ici, j'ai quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est. Et après, quand le navigateur, selon l'implémentation, alors selon que ce soit un protocole HTTP, selon que ce soit une adresse email c'est une URI aussi, enfin mail to, deux points, etc. Selon le type d'URI, on va avoir des actions qui sont différentes et on va obtenir la ressource qui est au bout, qui est différente. Par rapport à l'URL, c'est la même chose, c'est juste une évolution. Une évolution. Par contre, une chose qui est un tout petit peu différente, qui est une évolution un peu plus riche, c'est IRI, qui sont les URI internationales où on peut écrire. Alors aussi, exemple très court. Pardon, excuse-moi. Exemple très court sur les URI. Vous qui pensez que les URI sont significatives, elles ne sont significatives que dans votre contexte de langue. Un Chinois, il n'est pas obligé de comprendre. Je sais pas moi, téléchargement.com. Un Chinois doit pouvoir lire une URI dans sa langue. Donc ça, c'est IRI qui permet de le faire. Et vous allez voir au fur et à mesure dans le futur, au fur et à mesure que les choses vont évoluer, vous allez avoir de plus en plus d'URI qui ne seront pas compréhensibles pour vous. Il n'y a pas de valeur sémantique dans l'écriture d'une URI. C'est juste quelque chose de pratique.
Merci beaucoup, Karl. Et je crois que ça s'applaudit. Alors, on va très très vite installer la table.